Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Panorama économique de Radio Okapi. Au sommaire, les minerais de sang n'existent plus en République démocratique du Congo et les investisseurs internationaux n'ont plus rien à craindre au Congo. Déclaration du ministre de Mines, Martin Kabeloulou, à la 7e édition de l'IPA de cette semaine à Kinshasa. Une nouvelle compagnie aérienne a vu le jour à Kinshasa. Okapi Airlines a été présentée au public le week-end dernier. Mais qu'en est-il de la compagnie nationale et même du projet Korongo pour suppléer à la carence dans le transport aérien en RDC? Analyse et commentaires dans votre magazine. La 4e revue du programme économique du gouvernement poursuit son petit bonhomme de chemin et connaîtra une fin concluante. Le temps pour les entreprises minières d'apporter plus d'éclairage sur les contrats signés, c'est la précision du ministre des Finances Matata Mponyo au sujet du retard imposé par le FMI à l'issue de son assemblée annuelle de septembre dernier. Des interviews, reportages et autres news sont au menu de votre magazine qui reçoit cette semaine Jean-Robert Bonganga pour des commentaires et analyses. Monsieur Jean-Robert, bonjour et bienvenue à Panorama économique.
Bonjour, Daniel.
Et comme d'habitude, devant ce micro, Agathe Pona Elima et Daniel Tambinzoni vous présentent Panorama économique. Agathe, bonjour.
Bonjour, bonjour chers auditeurs, bonjour Daniel.
Panorama économique, le dossier.
Kinshasa a abdité du 3 au 4 dernier la 7e édition de l'IPAD RDC en 2011.
Le ministre des Mines a invité les investisseurs à venir au Congo et faire confiance aux minerais de la RDC qui, selon lui, sont propres. Martin Kabeloulou les rassure, le climat des affaires est propice. Retour sur les événements avec vous, Joël Bosengo.
Pour le ministre Martin Kabeloulou, qui est le premier pris la parole, les investisseurs internationaux n'ont plus à craindre. Grâce au mécanisme de certification et de traçabilité, les minerais de sang au Congo n'existent plus. Les minerais exportés par la RDC sont propres et le climat des affaires propice. Intervient ensuite Louis Kouyagialo, le vice-premier ministre et ministre de PTT. Il a invité les investisseurs à orienter leurs actions vers les provinces du Kivu, de l'Équateur et de la province orientale, qui sentent les nouveaux scandales géologiques du pays en hydrocarbures et minerais non encore exploités. Il les rassure. L'adhésion de la RDC à l'Association des pays producteurs de diamants africains a permis de réduire les frais des documents à payer. Le ministre du Plan a quant à lui présenté le bilan du processus de l'amélioration du climat des affaires. Selon Olivier Kamitatou, la RDC a gagné 7 places sur le dernier classement Doing Business de la Banque mondiale. Cependant, rien ne rassure, dit-il, pour le prochain classement attendu au mois d'octobre courant. La RDC pourrait encore perdre des places, non seulement à cause de l'insuffisance dans la desserte en électricité, mais aussi par le fait que les documents attestant le désir de la RDC à adhérer à l'OADA ne sont jamais déposés au secrétariat de l'organisation à Dakar au Sénégal. Le renforcement des capacités en ressources humaines, la gouvernance économique et financière, ainsi que la croissance démographique demeurent quelques défis à relever pour les 5 prochaines années au regard du DSRP 2 du gouvernement.
Merci Joël et bon week-end. Retour dans ce studio de Panorama économique où nous retrouvons notre invité de la semaine, Jean-Robert Bonganga. Je vous le présente, il est président de l'Association des économistes de l'Université de Kinshasa. Une autre casquette, il est président représentant la Chambre de commerce Brésil-Congo ici à Kinshasa. Monsieur Jean-Robert Bonganga, bonjour. Encore une fois, vous avez suivi cet élément sur l'IPAD où les officiels congolais étaient en train de présenter les potentialités d'investissement aux investisseurs internationaux. Quels commentaires vous en faites?
Bon, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le climat apaisé des affaires. Parce que en annonçant qu'il n'y a plus de minerais de sang, c'est pour réconforter les investisseurs extérieurs. Mais nous devons quand même dire que la vérité peut être vérifiée aussi autrement, à travers les ONG qui sont chargées de surveiller, par exemple l'ONG Global Witness, qui s'occupe un peu du suivi de tout ce que nous faisons de nos minerais. Mm-hmm. Parce que n'oublions pas que le Congo est traqué ces derniers temps par rapport au coltan, par rapport aux autres minerais qui entrent essentiellement dans la fabrication téléphonique.
Sans bien vouloir vous couper la parole, quand nous avons mis cette information sur le site de Radio Capi, il y a eu des réactions des internautes.
Et une des réactions disait que le ministre, avant de déclarer cela, est-ce qu'il s'est rassuré de ce qui s'est passé dans le Congo profond? Et c'est une réaction qui est venue de l'est du pays. Et ne partagez pas cet avis du ministre, parce que pour cet internaute de Radio Capi, en tout cas, il y a des choses qui pouvaient que des minerais de sang exister encore.
Effectivement, parce que quand je parlais des ONG, il faut aussi ajouter la population qui ne vit pas en sécurité. Et puis, en dehors du sang, il y a aussi ce qu'on peut appeler la féminicide, hein, c'est-à-dire les femmes qui sont violées là-bas et tout ça, qui créent une situation d'insécurité. Et n'oublions pas aussi que les hommes d'affaires, avant d'investir, ils se réfèrent aussi à leur représentation, à leurs ambassades. Nous avons la représentation de la MONUC là-bas, nous avons aussi dans toutes les ambassades des moyens logistiques qui leur permettent de voir exactement ce qui se passe localement. Donc, dire quelque chose et vérifier sur le terrain, je crois que c'est ce qui compte pour que ça puisse apaiser les
gens. Donc, selon vous, le climat sécuritaire n'est pas encore aussi attrayant que le ministre voudrait le faire voir?
Non. Et surtout que, même si cela a été un début, mais pour qu'un homme d'affaires vienne, il doit d'abord s'assurer de la pérennité de cette paix. Donc, ça demande beaucoup de temps avant d'attirer les hommes d'affaires. Mais il est déjà quelque chose à féliciter que ça soit une préoccupation pour les autorités.
Et lorsque le vice-premier ministre en charge de PTT se vante du secteur des hydrocarbures de l'RDC, vous en pensez quelque chose?
Oh, vous savez, le Congo partage plusieurs frontières dans l'utilisation de notre capacité, de nos ressources en hydrocarbures. Vous savez que déjà au nord, on a eu des problèmes avec nos voisins, dans ce qu'il y a comme bassin en hydrocarbures au niveau de Parc Albert. Vous savez aussi qu'au sud, on a des problèmes avec l'Angola, parce que bon, on accuse certains pays en train d'utiliser ce qui appartient à tout le monde d'une certaine façon sans que nous trouvions un intérêt. Et pour ce que nous produisons nous-mêmes, nous sommes en carence de pouvoir répondre à nos besoins. Nous produisons du pétrole brut au niveau de Moanda, que nous vendons brut, que nous ne transformons pas. Donc, je crois qu'il faudrait une maîtrise d'abord de nos territoires et de notre sous-sol pour pouvoir prévaloir que c'est un secteur qui avance positivement pour la population.
D'ailleurs, le ministre des Hydrocarbures l'a reconnu, la RDC ne connaît pas encore nettement ses réserves en ressources en hydrocarbures, donc il faut beaucoup d'argent pour mener les études et beaucoup d'argent pour passer à l'exploitation.
Je voulais aussi ajouter que la cuvette centrale constitue un grand bastion pour cela. Mais qu'est-ce que nous en savons? Qu'est-ce qui est déjà fait là-bas? Je crois que
il y a encore beaucoup à faire.
Nous regardons, M. Jean-Robert, le temps d'aborder ce deuxième dossier où Éco d'économie recevait lundi M. Mathieu Boukitou. C'est lui le directeur coordonnateur de Okapi Airlines, cette nouvelle compagnie aérienne en RDC.
Cette compagnie dispose, Daniel, selon son directeur coordonnateur, de 7 avions. Et c'est dans un premier temps. Et ces avions, la plupart des Boeing, vont exploiter le réseau domestique et interafricain. Je vous propose donc un extrait de l'interview que Mathieu Boukitou a accordé à Innocent Olinga.
Il est créé par un groupe d'hommes d'affaires congolais, propriétaires d'entreprises. Et ce sont ces entreprises-là qui se sont mises ensemble pour créer avec deux personnes physiques, Okapi Airlines. Donc, c'est une compagnie à 100% congolaise.
Et le défi est aussi énorme pour vous?
Oui, je vais vous dire une chose. Ce projet des Okapi Airlines date d'un constat. Depuis la chute de la compagnie nationale, il n'y a pas de compagnie normalisée. Vous vérifierez, vous verrez qu'il n'y a aucune compagnie IATA en RDC. Alors, IATA, c'est un label de qualité. Alors, ce constat nous a amenés à réfléchir comment faire en sorte qu'une compagnie normalisée puisse occuper ces vides-là. La création de Okapi Airlines, c'est pour répondre à ces besoins-là.
Votre flotte compte combien d'unités? Vous avez combien d'avions?
Au départ, le package total est de 7 avions. Le package total dans un premier temps. Donc, c'est-à-dire pour exploiter les réseaux domestiques et interafricains, c'est 7 avions. Nous attendons au courant de cette semaine le premier avion qui va arriver, c'est un Boeing 737-500. Je pense que dans le 30 jours après, il sera suivi d'un deuxième, mais qui est un 400 plus grand et qui transporte un peu plus, et ainsi de suite. Nous avons dans le package deux Boeing 737 400, 2 Boeing 737 500, 3 ATR 42 et 1 Boeing 737 800.
Quelles sont alors les lignes prévues pour l'exploitation?
Dans un premier temps, nous allons commencer par Lubumbashi. L'Aurélion, Kinshasa à Lubumbashi. Nous avons prévu de le faire deux fois par jour, mais nous allons commencer petitement avec une séquence par jour. Ensuite, nous allons connecter Lubumbashi à Mbujimayi et la région sud, c'est-à-dire le Kasaï et le Katanga. Et dans une troisième phase, ce sera le nord.
Retour dans ce studio de Panorama Économique où nous recevons M. Jean-Robert Mbonganga pour des analyses et commentaires. Une nouvelle compagnie aérienne en RDC. Mais vraiment, est-ce que vous pensez qu'elle vient combler le déficit dans le transport aérien au pays?
D'abord, je commence par une félicitation parce que quand vous voyez les Congolais évoluer dans ce secteur, ça veut dire qu'ils y croient. Mais le grand problème, c'est que l'espace aérien congolais est très grand. Et aujourd'hui, quand je suis vu ce que le DG a dit, vous verrez qu'il est en train de parler des routings qui sont traditionnels. Donc, il y a encore des routings qui ne sont pas.
Jusque là, on n'entend rien sur l'Équateur, rien exemple, sur le Bandundu, rien sur Matadi, donc les petites.
Ou quelqu'un qui quitte Lubumbashi qui va à Goma, tout comme ça. Donc, ça veut dire que l'espace est là. Mais le grand problème ici, je crois qu'il a fleuré ça aussi, c'est le problème de la sécurité et de la qualité de service. Moi, j'aurais préféré que la loi qui est déjà votée sur l'aviation soit vraiment en application. Parce que jusque-là, les arrêtés qui devaient les accompagner ne sont pas entièrement publiés. Et deuxièmement, qu'on arrive à exiger un processus IOSA à toutes les compagnies d'aviation. C'est un processus qui s'engage avec une société aérienne pendant 24 mois pour pouvoir auditer tout ce que cette société va faire dans le management, dans les services à bord, dans l'entretien des avions, dans les domaines de sécurité, tout ce qui
est. Mais ça, ce sont des garanties que le gouvernement devrait demander à ses hommes d'affaires.
Ok, donc avant qu'une société s'implante, il faut qu'on exige que cette société soit dans ce processus IOSA. Et pour les compagnies qui sont existantes, qu'on leur donne un délai très court pour que toutes ces sociétés se mettent au pas. Sinon, on verrait toujours nos sociétés en train de faire ce qui se passe aujourd'hui et que cela réduit notre audience vis-à-vis de l'extérieur.
L'histoire nous rappelle que la compagnie nationale avait une quarantaine d'aéronefs, mais était dans l'incapacité de servir toutes les lignes de la RDC déjà à l'époque. Mais aujourd'hui, avec cet aéronef, en tout cas, comment voulez-vous parler de l'amélioration du climat des affaires? Parce que dans les affaires, la rapidité, le temps aussi est un facteur à prendre en considération. Or, un investisseur qui vient et qui doit se déplacer pour l'intérieur du pays, qui se trouve lutté à un problème de transport, là, c'est un réel problème dans l'amélioration du climat des affaires.
Effectivement.
Le facteur temps.
Ok. Que Okapi Airlines s'ajoute, que Stella vienne, que Corongo s'ajoute, qu'il y ait d'autres nouvelles sociétés, je crois que ça ne va pas remplir le besoin du Congolais.
Le secteur est encore très vaste et très bien.
Je dirais une chose, il y a aussi l'aspect lié à l'infrastructure aéroportuaire, d'accueil, nos pistes, nos aéroports, ne répondent
pas. Le personnel.
Le personnel, la qualification, tout ça, il faut que ça soit IOSA. Et que l'autorité de l'aviation civile aussi se réqualifie pour lui permettre de bien contrôler ce secteur. Nous devons sortir de cela, que nous sommes comme Kenya Airways, comme Ethiopian, comme South Africa, comme Eurabore. Tout si vous suivez de très près, vous voyez que ce sont ceux qui avaient déjà entamé ce processus IOSA. Et si on peut l'exiger à toutes les autres compagnies, et pour les nouvelles, avant de s'implanter, d'entrer dans ce processus, on gagnerait en sécurité et en qualité.
Troisième et dernier dossier de Panorama Économique cette semaine, le Fonds Monétaire International demande à la RDC d'apporter la lumière, encore plus de lumière au sujet des contrats miniers signés par la GECAMINES et la FEDEMICO, deux minières congolaises, avant de se prononcer sur la conclusion de la quatrième revue du programme économique du gouvernement, le PEC 2. Il y a blocage, Agathe.
Non, répond le ministre des Finances. Pour Matata Ponyo, tout va bien et la suite sera très très favorable. Il reconnaît tout de même le manque d'informations lors de la signature de ces contrats par les minières congolaises, sans toutefois qu'il y ait blocage dans le processus. Matata Ponu l'a dit à Innocent Olinga.
D'abord, je voudrais confirmer que la quatrième revue du programme est très très concluante et que les dossiers devraient en principe suivre son cours normal pour être présentés au conseil d'administration du fonds monétaire bien avant la fin de l'année. Alors, pour revenir à votre question, est-ce qu'il y a des présentateurs? Est-ce qu'il y a des blocages? Non, il n'y a pas de blocage. Vous avez la question des gouvernances. Nous la discutons de manière tout à fait régulière avec le fonds monétaire, tout comme avec la Banque mondiale, et il s'est fait qu'il y a des sessions d'action qui sont faites dans deux entreprises minières congolaises, mais pour lesquelles le fonds et la banque n'étaient pas informés. Ils ont, comme l'exigent les pratiques professionnelles en la matière, conformément aux prescrits du programme, ils ont demandé au gouvernement de communiquer les informations essentielles en rapport avec ces sessions. Et c'est ce que nous avons promis, et ils ont dit qu'ils attendaient donc les informations en rapport avec ces sessions. Les dirigeants de ces entités minières sont disposés à communiquer l'ensemble de l'information sollicitée, et nous pensons qu'il n'y a aucun problème.
Et là, on est tout à fait d'accord. C'est Matata Ponyo qui le disait à Innocent Olinga en réaction à ce retardement de la conclusion de la 4e revue du PEC 2. Monsieur Jean-Robert, quel commentaire à ce stade?
Vous savez, le Congo ressemble à un malade sous perfusion. Sa maladie financière et économique, la perfusion, ce sont les organismes de Bretton Woods qui l'administrent. Donc il est normal que périodiquement on puisse faire le point pour savoir si nous respectons la dose et que notre évolution aussi va dans le sens de notre guérison. Alors quand il y a des points qui ne sont pas très clairs, vous avez bien vu que les points qui ne sont pas clairs concernent les mines. Donc notre sous-sol dans sa répartition, dans son exploitation, nécessite beaucoup de clarté, beaucoup de transparence. Alors quand ça échappe, ça pose problème. Vous avez vu même quand on avait parlé de notre sujet concernant le sang minéré.
Oui, les minéraux de sang.
Les minéraux de sang, vous avez pu remarquer que tout autour de nous, il y a plus de trentaines de sociétés multinationales qui prennent notre biberon, qui vivent de nos seins. Donc, il faut que tout cela soit clair pour que le bénéficiaire soit le pays et non des individus ou d'autres sociétés.
Mais M. Jean-Robert, est-ce que vous croyez au développement d'un pays via les institutions de Bretton Woods, qu'elles soient FMI ou Banque mondiale?
Oh, c'est une question. C'est, je dirais, une fausse question. Parce que maintenant, là, tel que nous sommes, il nous est difficile de ne pas travailler avec les institutions internationales.
Mais est-ce qu'on peut se développer par...
Pas partant de là. Partant de nous-mêmes avec leur aide. Parce que même les États-Unis, même les autres pays qui sont développés recourent à ces institutions. Nous suivons aujourd'hui ce qui se passe en Grèce. Donc il faut que l'intervention extérieure soit faible. Je donne un exemple pour nos finances. Rien que pour notre budget, plus de 55% est extérieur. Donc vous comprenez vous-même que nous sommes dans une situation où le développement n'est pas interne.
Ouais.
Donc nous dépendons plus de l'extérieur. Et quand on dépend de l'extérieur, eux vous imposent ce qu'ils appellent la conditionnalité. Et cette conditionnalité que certains appellent pilule la mer, souvent ne va pas de pair avec le social. Alors si nous, avec nos ressources, nos organisations, nous arrivons à valoriser nous-mêmes ce que nous avons, nous laissons un climat serein pour appeler les autres à investir, l'aide extérieure de ces institutions tant multilatérales que bilatérales serait la pousse, mais pas l'essentiel.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Le reste de l'actualité de la semaine, le gouverneur du Katanga demandait à toutes les sociétés minières installées dans sa juridiction d'assurer leurs travailleurs à la SONANCE.
Moïse Katumbi a lancé cet appel lundi au cours d'une réunion de concertation avec l'administrateur général adjoint de la SONANCE en mission à Lubumbashi et les responsables de ces entreprises. Pour le gouverneur, les plaintes des travailleurs suite au manque d'assistance en cas de maladie ou d'accident de travail sont à la base de cette mesure. À la SONANCE, le gouverneur du Katanga a demandé de satisfaire ses assurés pour mériter leur confiance.
Le programme des Nations Unies pour le développement PNUS vient de doter l'université de Goma d'un laboratoire de données statistiques et d'analyse économique.
Ceci dans le cadre du projet d'appui à l'établissement des mécanismes de planification du développement et de la reconstitution des tissus socio-économiques au niveau communautaire et régional. Outre la collecte et le stockage des données économiques, cet outil va permettre aux autorités locales de connaître les principaux indicateurs économiques de la province.
Les chargeurs du port de Kalundu en territoire d'Uvira au sud Kivu se plaignent du chômage de plus en plus accru.
Et ils plaident pour la reprise des activités d'importation à ce port public. Les principaux importateurs confrontés aux problèmes fiscaux au niveau du port ont emprunté d'autres voies pour faire entrer leurs marchandises. Cette situation a plusieurs conséquences sur les jeunes chargeurs estimés à près de 600 personnes, et ce d'après le chef du port de Kalundu.
Et à Goma dans le Nord Kivu, c'est plutôt le prix du sucre qui est en hausse depuis plus de mois maintenant.
Un sac de 50 kilos revient à 80$ au lieu de 60$ il y a près de deux mois. Les détaillants ont aussi fait la surenchère. Le kilo de sucre est vendu à 1,8$ au lieu de 1,2$ et le bol de 6 verres au marché coûte actuellement 2 500 francs. Le président des boutiques qui est de Goma, Kembo Amnassi, explique cette situation par la rareté de ce produit depuis la Tanzanie, pays de provenance. La Tanzanie, selon lui, a décidé de diminuer l'exportation de son sucre vers la RDC, l'Ouganda, le Kenya ainsi que le Rwanda.
Merci Agathe, Monsieur Jean-Robert, sur l'une ou l'autre de ces informations, par exemple, le gouverneur qui demande aux entreprises minières d'assurer leurs travailleurs auprès de la SONANCE. Et également ce laboratoire économique à l'université de Goma, parce que même il a été soulevé à l'IPAD cette semaine que la RDC souffre en matière de statistiques. Dans tous les secteurs, dans tous les domaines, il n'y a aucune statistique et voilà un laboratoire économique.
Oui, je voulais dire un mot à propos de la SONAS, oui. Donc l'assurance des employés.
Des entreprises minières.
Oui, des entreprises minières. Je crois que ça devrait être la même chose pour
toutes les employés,
parce que nous avons un problème de la sécurité sociale, des mutuelles de santé, ainsi de suite. Je crois que ici, les choses se passeraient mieux si on avait libéralisé un peu ce secteur. C'est-à-dire qu'on ait plusieurs organismes où les sociétés...
Je pense que le projet en cours, il a été dit au cours de l'État de cette semaine qu'il faudrait une des conditions pour vraiment arriver à une amélioration du climat des affaires en RDC, c'est aussi libéraliser le secteur de l'assurance.
Oui, parce que la concurrence à ce niveau améliorerait le résultat. Parce que maintenant, si on a seulement une institution de l'État qui s'impose de sa façon, qui souvent ne remplit pas ses obligations, parce qu'on peut s'assurer, mais pour avoir la couverture de risque en cas de sinistre, il se pose beaucoup de problèmes. Et puis, il faut que cela soit consistant pour que quelqu'un qui est accidenté, quelqu'un qui est retraité, puisse retrouver l'espoir de vivre correctement les derniers jours de sa vie.
C'est que c'est une bonne démarche entreprise par Moïse Katumbi.
Une bonne démarche qui peut s'imposer à tous les secteurs.
Panorama économique, réponse.
À Lubumbashi, le sac de 50 kg de ciment importé se négocie à 15 500 francs chez les revendeurs. D'après les opérateurs économiques, ce prix n'a jamais connu une baisse malgré la décision prise par le gouvernement central d'exonérer ce produit à l'importation. Constat de Paulin Munanga dans ce reportage.
Cette exonération concernait le ciment à l'importation, non seulement des droits et taxes, mais également de la redevance administrative. Il y a eu l'annonce du directeur général de la DGDA qui porte sur les dispositions à l'importation du ciment gris après ses instructions à différents niveaux. Pourquoi alors cette non-application au niveau de Lubumbashi? Le prix du ciment n'a jamais été revu à la baisse. Quant à ce qui la concerne, la DGDA Katanga signale avoir déjà rempli sa tâche dans ce dossier. David Kalande Mouya, directeur provincial.
Je Je pense que ce n'est pas la mission de la DGDA de pouvoir faire le contrôle des prix. En ce qui nous concerne, nous avons les instructions des autorités compétentes et nous les exécutons. Je ne sais pas si vous avez peut-être le point de vue de la SEC qui a reçu l'arrêté du ministre et la note du directeur général de la douane.
La SEC Katanga, à qui l'on vient de jeter la balle, donne ici quelques explications à ce sujet. S'il y a eu hausse du prix des ciments, c'est à cause des élections qui ont eu lieu en Zambie. La grande entreprise de ce pays qui alimente la ville de Lubumbashi en ciment avait réduit sensiblement la production, affirme Félicien Yambatibangou, président de la FEC Katanga.
Une chose que je sais qui a arrêté du ciment. L'usine avait réduit sa production pour des raisons de sécurité parce que c'était une période des élections en Zambie. L'usine n'avait pas produit beaucoup de ciment à l'exportation. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de ciment à Lubumbashi. Mais la situation va redevenir à la normale dans moins d'une semaine. Le ciment, il n'y a pas à Lubumbashi. Et quelques gens qui avaient quelques ciments, peut-être des gens qui construisaient, ils ont vu qu'il n'y a pas de ciment, ils commencent à vendre. Ce ne sont pas des commerçants.
Certains commerçants que nous avons interrogés à ce sujet avancent aussi la même raison. Selon eux, le prix du sac de ciment se vend à partir de la Zambie à 12,5 dollars américains, l'équivalent des 11 370 francs congolais. Ce qui ne les empêche pas de fixer aussi le prix du sac ici chez nous à 15 500 francs congolais. Signalons par ailleurs que d'autres sources nous ont fait savoir que si le prix du ciment ne baisse pas encore jusqu'à présent ici à Lubumbashi, c'est tout simplement à cause de la cupidité des opérateurs économiques et du non-contrôle des prix de ces produits sur le marché par les services de l'État concerné. Lubumbashi, Paulin Munanga pour Echo d'économie.
Bon week-end, Paulin Munanga pour ce reportage. Merci et le retour dans ce studio de Panorama économique qui reçoit Jean-Robert Bonganga, président de l'Association des économistes de l'Université de Kinshasa. Il est aussi le président représentant la Chambre de commerce Brésil RDC à Kinshasa. Monsieur Jean-Robert, l'exonération du prix du ciment à l'importation, le prix qui ne baisse pas. Vous êtes opérateur économique, comment vous pouvez justifier cela?
Il y a trois phénomènes qui influencent les prix pour le cas d'espèce. Il y a l'offre et la demande. Si nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte. Ouais. Donc, quand nous disons que les gens maintiennent le prix alors qu'il n'y a pas de changement d'autres éléments, mais le plus naturellement, c'est la demande qui croît alors que l'offre ne suit pas. Et pour ce qui est de l'offre, nous sommes dans un très grand pays, je passe au deuxième point, qui est en phase de reconstruction. Donc, la reconstruction nécessite beaucoup de moyens. Donc, on devait, disons, penser à la mise en place de beaucoup de cimenteries pour que nous puissions répondre aux besoins de la reconstruction. Or, ces besoins croissants nécessitent qu'il y ait une certaine spéculation.
Pour ça, que l'exonération, elle seule, ne suffit pas.
Ne suffit pas. Et puis, il y a d'autres éléments qui entrent dans le prix des revient. N'oublions pas, c'est le transport. Parce que vous pouvez bien acheter le ciment à un prix déterminé, $2 ou $3 en Chine. Mais beaucoup de circuits d'évacuation qui nécessitent des transbordements et qui nécessitent l'usage d'autres moyens de transport comme les camions et tout ça, les carburants montant les prix, les camions augmentant aussi son taux d'amortissement parce que certaines routes ne sont pas bonnes. Vous savez, pour transporter peut-être 20 tonnes de ciment sur une distance de 100 km, si vous faites 3 jours, la location de ce véhicule, le véhicule va s'abîmer, le propriétaire du véhicule va vous facturer l'amortissement de son véhicule et les carburants montants, il va aussi facturer l'augmentation
de ses dents. Ça se répercute sur le prix de la marchandise.
Voilà. C'est qu'on ne fait pas sentir le défait de l'exonération.
Bien au contraire, on peut même voir que le prix augmente parce que tous les autres éléments, toutes choses étant égales par ailleurs, peuvent avoir une pondération supérieure par rapport à l'absence de la taxe.
Okay. Ouais. Donc, ce que vous conseillerez plutôt à l'État congolais, de multiplier, de cimenter à travers le pays.
Voilà, c'est ce qui devait précéder le programme de reconstruction.
La cimenterie de Kisangani de la province orientale dont on parle chaque année, chaque mois, mais bon, pratiquement la rien avance.
Je vais vous donner un exemple. Reconstruire ici les routes, vous devez avoir des caillasses. Bon, est-ce qu'on avait... Je crois que maintenant, je vois déjà une évolution dans ce sens. Il faut avoir beaucoup de mines. Où vous devez produire les caillasses, n'est-ce pas? Et puis vous devez avoir des coins où vous devez avoir des sables, ainsi de suite. Donc la reconstruction, c'est une bonne décision, c'est un bon plan, mais qui doit être précédé par des intrants, par des matières, par des matériaux qui doivent entrer dans la reconstruction.
Merci beaucoup, M. Jean-Robert Bonganga, d'avoir accepté notre invitation et nous faisons croire que ce ne sera pas votre dernier passage à Panorama économique.
Je crois pouvoir repasser encore.
Merci à vous, chers auditeurs. Merci à Agathe Mpona Elima. Merci aussi à Jean-Claude Siala, qui était de l'autre côté de la baie vitrée. Merci pour votre particulière attention. Rendez-vous avec l'actualité économique sur Radio Capi, lundi, 18h04, de Kinshasa. En attendant, très bonne fin de semaine à vous tous. Thank you.